pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pareil on chantait.
Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça?
Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends.
Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça?
Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses des cailloux, empêche les dents, ramasse les sous. Avoue franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Oh, allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça?
Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné, mais au moins j'aurai essayé avant les boss de te causer.
Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça?
Nous vous diffusons un interview qui a été réalisé avec notre camarade Joël autour de la question de l'évolution des moyens donnés à la répression des mouvements sociaux. Ainsi, nous n'oublions certainement pas la question des violences d'État qui s'abat au quotidien dans les quartiers populaires. Néanmoins, pour cette émission, nous nous centrerons sur la question des luttes environnementales et des mobilisations sociales. On vous laisse donc écouter cet entretien
On a décidé de t'appeler, enfin d'avoir une d'avoir une conversation avec toi sur la question de la répression des mouvements écolos en ce moment. Alors, tu n'as pas été choisi au hasard, puisque tu es un militant écologiste et pas que, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, notamment sur Notre-Dame-des-Landes, Bure, etc. Je te laisse continuer la présentation.
Oui, c'est le EPACE est effectivement fondateur dans mon engagement puisque je suis venu assez tardivement même dans mon engagement sur les luttes écologistes. Avant, j'étais pas mal sur les luttes sur les questions de coercition, de services, de lutte contre les politiques sécuritaires, les luttes migratoires, etc. pendant près d'une dizaine d'années avant d'arriver sur les luttes environnementales en fait. Et finalement, c'est par des gens, par le G8, G20 en 2011 vers là que je suis arrivé sur la question de Notre-Dame-des-Landes puisque c'est là-bas qu'a eu lieu l'anti G8 G20. Donc voilà, c'est là que j'ai fait un peu le croisement et aussi avec les luttes antinucléaires puisque des amis que j'ai croisés à cette occasion-là étaient très mobilisés sur les luttes antinucléaires.
D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on avait envie de voir un petit peu avec toi, à la fois vu que tu es engagé depuis pas mal d'années. Est-ce que tu penses, comment tu vois l'évolution à la fois de la mobilisation et de la répression des mouvements écologistes?
Ben, pour moi, elle est dans la continuation d'une logique d'étouffement de la contestation qui est à l'œuvre depuis pas mal d'années. Et, bon, après, elle est cyclique. Hein, elle est contextuelle aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'elle est cyclique. Si on revient aux années 70, on avait aussi des velléités d'étouffement de la contestation au sens large et qui s'exerçait sur toute contestation aussi. Et là, je pense que depuis le début, le milieu des années 2000, là, on a vraiment graduellement des cadres législatifs et autres qui s'ajoutent, des lois sécuritaires qui s'ajoutent et qui vont dans le sens d'un étouffement progressif de toute contestation et de la remise en cause même du principe de contestation. À part de dire, en démocratie, vous avez le droit de défiler, mais c'est tout ce que vous avez le droit, en fait, pour vous exprimer. Vous pouvez aussi faire une pétition si vous voulez faire. Mais même les pétitions, tu vois, même sur le site de l'Assemblée nationale, on a vu avec celle de la brave M, même là, c'est encore trop et on la retire. Quoi.
Absolument. Alors là, tu évoquais brièvement, trop brièvement peut-être, la répression qui a pu entacher les mouvements. Notamment, on voulait faire référence à Crémalville, donc une lutte antinucléaire dans la fin des années 70, où il y a eu un mort. Et puis, plus récemment, évidemment, la mort de Rémi Fraisse. Et donc, c'est pas la première fois que l'État réagit d'une manière extrêmement violente face aux contestations de projets nucléaires ou de projets qui peuvent, en tous les cas, freiner les projets de la FNSEA et de l'agroalimentaire.
C'est vrai qu'on a une longue histoire de répression des luttes antinucléaires. Donc, dans le domaine des luttes environnementales, comme on les appelle un peu largement, c'est surtout sur l'antinucléaire que ça a porté avant les années 2000. Là, on a eu un tournant aussi dans les années 2000 avec Notre-Dame-des-Landes, le phénomène ZAD, entre guillemets, qui a étendu largement la répression des mouvements environnementaux plus largement, en fait. Du coup, effectivement, Rémi Fraisse, on a un peu une bascule, mais qui est un peu plus tôt, qui est en 2012 à peu près, avec l'opération César sur Notre-Dame-des-Landes, de tentative d'expulsion de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, simultanément, on avait le Chefren, qui est moins connu, mais à Montabeau, on a eu aussi une très lourde répression du même ordre contre les militants antinucléaires la même année, quoi. Non, mais on a une simultanéité d'un cran qui monte. Et je pense que on a été surpris de la violence du mouvement CPE. Je pense que on est toute une génération à avoir fait un peu nos premières grosses contestations de rue avec le CPE, un grand nombre de personnes qui sont de mon âge. Et là, on a senti vraiment un tournant déjà répressif dans la rue. Et qui s'est transporté peu de temps après dans les 3, 4, 5 années suivantes plus largement sur la contestation, même dans des espaces ruraux comme à Notre-Dame-des-Landes et sur les luttes antinucléaires. Et là, on a été attaqué avec des grenades offensives, et celle qui a tué Rémi Fraisse. Et c'était vraiment la montée d'un cran. On utilisait des armes que nous, on n'était pas du tout habitués à avoir face à nous dans la contestation de rue, quoi. Je pense qu'il y a eu une nouvelle logique dans le maintien de l'ordre qui est apparue avec Sarkozy, c'est que on a eu au lieu qu'il y ait une espèce, avant on avait un peu une doctrine de maintien de l'ordre, de maintien à distance et de dissuasion et de désescalade qui était un peu théorisée, etc., qui a quand même prévalu sur tous les mouvements sociaux avec des tirs massifs de lacrymo, ça en a toujours eu, mais avec l'apparition du LBD et sa transposition des quartiers populaires vers les émeutes urbaine au plus généralement et vers les manifestations, on a une utilisation du LBD pour cibler des personnes dans la foule. Et là, on n'est plus sur un truc de dissuader la foule dans sa globalité, mais plus d'isoler des personnes et de dire dans la foule, on peut vous frapper à n'importe quel endroit et vous occasionner des dommages trop graves pour que vous vouliez les endurer ou y revenir, en fait. Et ça a été vraiment un changement du maintien de l'ordre fondamental, de dire on peut vous mutiler, et c'est un message qu'on vous envoie à tous et toutes, qu'on le fera même potentiellement aveuglément, c'est-à-dire que ça ne sera pas nécessairement les gens qui ont commis des choses qui vont le subir, mais potentiellement n'importe lequel d'entre nous, tant que vous vous maintiendrez dans ces manifestations. Et donc ça a été un message assez puissant qui est envoyé au mouvement social, de dire, mais ça a aussi haussé d'un cran la colère et ce qui est ressenti en face, c'est de se dire, ah oui, bah, l'état policier, c'est en fait, c'est on mutile et impunément dans la foule, quoi.
Alors justement, là, tu revenais pas mal sur la doctrine du maintien de l'ordre et son évolution. Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de pouvoir mettre en avant le fait qu'il y a eu aussi une évolution du côté judiciaire, au sens où vous avez subi une répression judiciaire aussi très importante, par exemple dans la lutte à Bure.
Ouais, bah oui. Je pense que ce qui était intéressant, il y a judiciaire et il y a administratif. C'est assez intéressant parce que on ne distingue pas toujours ce qui relève du judiciaire et de l'administratif, mais il y a deux justices. Il y en a une administrative, une judiciaire. La judiciaire, elle dépend du ministère de la Justice, mais l'administratif, elle dépend beaucoup de l'exécutif et donc du ministère de l'Intérieur, plus des décisions du ministère de l'Intérieur et de l'application des directives du ministère de l'Intérieur. Et pourquoi je dis ça ? Parce que on a aussi une mutation à partir de 2016. On commence à avoir les interdictions de manifester qui viennent avant les manifestations. On considère que des personnes qui ont pu être arrêtées sur une manifestation auparavant sont susceptibles de à nouveau se présenter sur des manifestations et être à l'origine de troubles à l'ordre public, même si on n'a pas pu déterminer qu'elles étaient à l'origine de troubles la fois d'avant. C'est juste que par dissuasion, ces personnes-là, elles ont fait partie d'un ensemble de gens que... Donc c'est la prévention, c'est l'intentionnalité qui commence à ressortir. Et l'intentionnalité, elle est pointée d'un point de vue administratif, mais elle ressort aussi dans l'évolution du cadre légal, avec des lois sur l'intentionnalité progressivement, les faisceaux d'indices concordants, la participation à un attroupement en vue d'eux, la participation à des groupements en vue d'eux, les « en vue d'eux », sont pas déterminés sur des faits, mais sur des présomptions de culpabilité. Et ça, c'est assez problématique. C'est aussi une bascule. Et à partir de ça, le ministère de l'Intérieur fait des circulaires qui dit aux préfets, aux procureurs, utilisez ces dispositifs qui sont à votre disposition pour prévenir les troubles à l'ordre public. Et c'est la circulaire qui va être envoyée à tous les préfets de France au moment de l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes en 2016. Et donc là, on a vraiment une bascule, effectivement, dans la judiciarisation des luttes. Et c'est ce qui s'est passé à Bure. À Notre-Dame-des-Landes, on a choisi une offensive militaire avec une attaque vraiment très militaire et très peu, finalement, de personnes poursuivies. À Bure, ça a été l'inverse. Ça a été 50 à 60 procès en l'espace de 6 mois, avec 26 interdictions de territoire, une judiciarisation très forte, et tout ça soutenu par un dispositif policier, mais qui est, lui, au service d'une judiciarisation de la lutte. C'est que le quadrillage policier permet, mais c'est ce qu'on a vu pendant le pass sanitaire, c'est le quadrillage policier va dresser des amendes ou mettre en place des vexations et dissuader la contestation et dissuader toute mobilisation par des vexations. C'est vous avez refusé vous prêter un contrôle, c'est un outrage, boum, tribunal, vous avez refusé ça, hop, c'est une amende, 135 €. Et voilà, et on glisse totalement dans le domaine policier et moins judiciaire que policier. C'est le policier qui est finalement aux commandes vers le judiciaire, en fait.
Alors, on va continuer. Bon, là, on n'a pas du tout parlé du mouvement des Gilets jaunes, mais je pense aussi il a pu... tout l'ensemble de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire aussi bien la répression au niveau policier, judiciaire, administratif, a été largement utilisé aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'y a pas de dissociation entre les mouvements. Ce qu'il y a... Ce qui existe pour l'un va se généraliser pour l'ensemble.
Bah, ça c'est malheureusement un principe, c'est que tout ce qui est une exception à un moment dans un cadre précis est transposé dans la normalité et dans le droit commun ensuite. Et donc on a une normalisation progressive de l'exception au fur et à mesure des années, que ce soit au moment de la COP21, tout ce qui a été l'état d'urgence, tout ce qui a été l'état d'urgence pendant des mois et qui a servi à faire des dispositifs d'exception liés à l'état d'urgence a été transposé en partie dans le droit commun qui permet les perquisitions administratives et les assignations à résidence dans une certaine mesure, et ça a été utilisé massivement ensuite. Mais c'est intéressant parce que là on a un mouvement qui a aussi été inverse. Souvent on a des populations des quartiers populaires ou des migrants qui sont les premiers à faire avoir des dispositifs contre eux, et ensuite c'est transposé plus largement au reste de la société. Et là, spécifiquement sur la question de l'assignation à résidence, on a eu l'inverse, c'est-à-dire que l'état d'urgence a permis d'assigner très massivement les migrants, toutes les personnes étrangères pendant les mois qui ont suivi. Et ça, on n'en a pas du tout parlé du nombre incroyable d'assignations à résidence d'étrangers dans les mois qui ont suivi l'état d'urgence. Mais tout ça, ce que ça dit, c'est que systématiquement, quand il y a contextuellement, on profite d'un contexte où il y a une espèce de sidération ou un espèce de choc devant une situation, le politique saisit ce moment-là pour mettre en place des dispositifs d'exception en disant que c'est d'exception et provisoire, et finalement les pérennise et les transpose dans le droit commun systématiquement.
Carrément. Alors, on va parler de cette loi séparatisme qui était juste après les attentats. Cibler en tous les cas dans les textes, dans le discours, l'islamisme radical, et qui, on se rend compte là, touche l'ensemble du secteur associatif, et notamment entre autres là on l'a vu pour la LDH avec le contrat d'engagement républicain, où les associations sont assujetties à des projets, hein, qui vont dans le sens de l'engagement républicain. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc et ça permet de désubventionner les associations, les empêcher ou voire même les dissoudre. Donc on le voit avec la LDH.
On l'a vu aussi avec le collectif Palestine Vaincra qui a été dissous l'année
dernière. Ou la volonté pour DEFCO et puis les soulèvements de la terre.
Donc oui, la GAL et contre-attaque aussi.
Exactement.
Bah, je pense que c'est assez symptomatique de l'état policier, en fait, de façon globale. Hein. À partir du moment où l'exécutif contourne le judiciaire, c'est ce que dit Vanessa Kodachioni quand elle analyse un peu les dispositifs d'exception et tout dans ses bouquins, c'est à partir du moment où l'exécutif contourne le judiciaire, on va vers un état policier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour en force de tout. Les cadres qui ont finalement été créés à la fin du 19e siècle, post-commune de Paris, pour réprimer les mouvements anarchistes, tous ces cadres-là aujourd'hui sont remis au goût du jour, que ce soit l'association de malfaiteurs, mais plus largement aussi tous les dispositifs qui permettent une action policière avec des cellules spécialisées, des polices politiques et autres. Ça revient complètement au devant de la scène là en ce moment. Et c'est de plus en plus décomplexé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des politiques qui assument le fait qu'on puisse avoir des polices politiques, des cellules de police politique, qu'on puisse avoir des cadres judiciaires et légaux d'exception pour juger des infractions dite politique, quoi. Et c'est surtout que systématiquement, c'est un cheval de Troie, c'est-à-dire on utilise finalement le racisme systémique pour faire passer une loi séparatisme pendant que tout le monde s'excite sur une autre loi. Et personne ne prête attention à celle-là. Et finalement, c'est celle-là, le cheval de Troie, qui fait rentrer la plus grave atteinte aux libertés. Mmh. Et c'était pas l'article qu'on a combattu pendant des mois pour. Enfin, pendant ce temps-là, on s'est pas du tout soucié de la loi séparatisme. Mmh. Et on aurait dû prêter un œil là-dessus. Enfin, pas mal. Un certain nombre de gens l'ont lancé l'alerte là-dessus à l'époque. Mais mmh. systématiquement, il y a un peu ce truc. Et la dissolution du CCIF a ouvert la voie aux suivantes. C'est aussi ça, systématiquement on utilise l'islamophobie et un certain nombre de choses, on attise les haines pour dissimuler ce que ça va créer comme jurisprudence en fait. Mmh. Et personne ne va crier au loup parce que c'est gênant, etc. Mais malheureusement ça pose une jurisprudence qui demanderait qu'on s'oppose tous violemment à toutes à tous ces dispositifs d'exception qui se normalisent.
Il y a à l'heure actuelle des juristes et puis des collectifs qui se battent contre cette loi, mais c'est comme si, mais bon, c'est vrai qu'aussi les lois se succèdent, vont à une vitesse extrêmement rapide et qu'on a à peine le temps d'en prendre connaissance qu'elles sont déjà promulguées. Et qu'on a tendance un peu à se battre contre ces lois quand on voit leur application et quand elles sont déjà de fait là.
Oui, ça c'est un peu notre spécialité de faire le raout la veille de l'élection d'une loi alors qu'elle est dans les tuyaux pendant un an auparavant.
Ouais.
C'est un peu notre running gag de toujours se mobiliser à la dernière minute.
Ouais, c'est vrai. Alors j'avais envie aussi de parler un peu des termes qui sont utilisés justement pour pouvoir idéologiquement faire accepter toutes les lois dont on parle depuis le début de cette émission. C'est-à-dire on parle de casseurs, on parle de d'écoterrorisme, on emploie, enfin l'État emploie des mots extrêmement forts pour justifier la violence de leur répression.
Ah bah oui, mais ça par contre, ça aussi c'est vieux comme le monde. Hein. Ouais. Si tu regardes la presse du 19e siècle, c'est très intéressant, il y avait exactement les mêmes termes. Après la question c'est plus la façon dont toute une classe politique de gauche se l'est appropriée et qu'on finit par avoir des gouvernements de gauche au pouvoir qui ont exactement la même, soi-disant de gauche, ouais, qui ont la même rhétorique. Et ouais, c'est assez problématique, en fait. Ça a quand même ouvert largement la voie à une banalisation, une stigmatisation des luttes et de finalement ce glissement progressif de dire que finalement les mouvements sociaux, ça serait calme par nature et que ça serait ça la démocratie et que toute autre contestation, dès qu'elle s'agite, elle serait hors des cadres légaux et elle serait pas conforme à la démocratie. Enfin, c'est une négation historique de fou, en fait, si tu réfléchis de comment les acquis sociaux et tout ça, comment c'est arrivé. Enfin, c'est réécrire l'histoire, en fait.
Mmh.
Et ça, c'est un vrai. Et ce glissement rhétorique, il est très grave. Et aujourd'hui, qu'il y a de nouveau des jeunes députés qui assument de revenir sur cette rhétorique et finalement, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. C'est aujourd'hui, c'est un mal, c'est absolument nécessaire. C'est le moindre mal nécessaire, c'est de redéconstruire ces mots et de revenir à une vision de ce qu'est la contestation sociale réelle, quoi.
Alors justement, là, on avait enregistré, et ça m'a fait un peu marrer, donc je le reprends, c'est un syndicaliste, en plus je crois que c'est de l'UNSA, donc, qui disait « la révolution, c'est pas la fête des voisins ». Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à parler de mai 68 en oubliant les images de barricades, de pavés lancés et d'affrontements directs avec le pouvoir et sa milice.
C'est surtout oui. Mais moi, ce qui a vraiment fait beaucoup de mal à la contestation sociale, c'est cette dissociation systématique d'une grande partie des organisations pendant des années, et qui a vraiment scindé les mouvements sociaux et qui a affaibli considérablement les mouvements sociaux, qui a laissé croire que la contestation face à un libéralisme dur et face à une violence qui, elle, est très assumée au niveau étatique, on puisse avoir quelque chose dans cette asymétrie qui puisse être, de laisser penser que demain, on serait 9 millions dans les rues de Paris à défiler si on continuait à être non-violent et à ne pas s'énerver.
Mais en fait, qu'on serait entendu en plus.
C'est contraire. Ouais. C'est le contraire. Il y a un sentiment que plus on est et moins ça s'est entendu et donc moins ça sert à quelque chose et donc moins il y a de gens dans les rues. Et c'est ça le phénomène réel qui se passe depuis des années. Une érosion totale des syndicats, une érosion totale de la contestation parce que plus personne n'y croit, en fait. Mais c'est là où on méconnaît notre histoire et que les cours d'histoire politique sont quand même importants. C'est qui a inventé la déclaration? C'est le préfet Lépine, le fameux, qui a aussi inventé les grenades lacrymogènes et tous les dispositifs. Enfin, c'est lui qui a rénové le maintien de l'ordre et qui l'a rendu plus acceptable à la population parce qu'il en a fait finalement quelque chose de séparé de l'armée et du militaire. Et c'est lui qui a quand même finalement été très inventif dans la maîtrise du mouvement social parce que il a instauré tout un tas de trucs, la doctrine de mise à distance, ça a été un des premiers à le faire, la séparation des foules par des mouvements de foules comme font les CRS quand ils chargent puis ils font des bons tactiques, etc. Et la déclaration. Et donc les syndicats et autres, la première manif tranquille qui s'est passée dans l'entre-deux-guerres, c'est suite à la première déclaration, enfin c'était même avant la Première Guerre mondiale si je ne me trompe pas, il y a eu un espèce de mouvement très violent avec les étudiants blessés, etc. Et après ça, ils ont décidé de faire la première manif tranquille, donc avec un régime déclaratif. Et depuis, le régime déclaratif, il est resté en fait. Mais... Et on considère que c'est ça la normalité depuis.
Parce que la question, c'est aussi peut-être de voir comment est-ce qu'à un moment donné, on a perdu de vue que les lois n'étaient pas au service
du peuple,
mais était bien au service des intérêts de ceux qui nous gouvernent. Et qu'en réalité, l'outil législatif n'est pas à notre service. Il nous opprime. Et en oubliant ça, quelque part, on s'est mis à croire et à se conformer à une certaine pensée légale, cadrante, démobilisation. J'ai l'impression, peut-être.
Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est beaucoup lié à une peur de la violence qui est quand même assez répandue et qu'on partage tous à différents niveaux. Et en fait, la peur de la violence fait qu'à un moment donné, tu vas être rassuré par des cadres qui, à un moment donné, ramènent une certaine forme de tranquillité, en fait. Et du coup, tu fermes les yeux sur ce que ça implique aussi en termes de perte de liberté et de progressivement, toi aussi, renoncer à ta capacité de... Enfin, à ta colère, à faire des concessions sur ta colère et ta contestation. C'est rentrer dans le rang, quoi. Et progressivement, c'est vraiment... On voit ça dans toutes les dystopies, en fait. C'est Orwell, quoi.
Du coup, on voulait peut-être parler un petit peu des nouvelles armes qui ont été employées à Sainte-Soline, puisqu'il y a eu des choses un petit peu nouvelles, hein, en plus de celles qui existaient déjà. De voir un petit peu, et puis de voir à chaque fois qu'on suite par exemple à Rémi Fraisse, certaines armes avaient été soi-disant interdites, et on les voit réapparaître encore plus dangereuses, mais sous d'autres noms.
Là, on a celles qui ont été utilisées. On a les ASSD qui ont été utilisées, quelques dizaines d'ASSD qui ont été utilisées. Donc ça, c'est des grenades à fort effet détonant. Qui sont plus fortes que les GM2L. Les GM2L sont déjà assez violentes puisqu'elles explosent, elles font un souffle assez puissant d'explosion qui peut provoquer des lésions auditives à courte portée, jusqu'à quelques mètres, jusqu'à une dizaine de mètres, ça peut occasionner des pertes auditives. C'est des grenades à effet de souffle quand même, parce que ça projette quand même autour un certain nombre de morceaux de la grenade. Donc les GM2L, il y a quand même des fragments qui partent. Alors c'est censé être détonant et sans fragments, des fragments, il y en a partout. Pas mal de gens sont blessés par ces fragments. Et les ASSD, c'est encore plus puissant. Donc celle-là, elle a un effet détonant encore plus fort. Il y a plus de d'explosifs dedans. Et contrairement, la GM2L a quand même un tout petit peu de dégagement de lacrymo. Il y a quand même un tout petit peu de dégagement. Alors que la SSD, elle est purement explosive. Et donc, ces deux-là, c'est rien d'autre que le combo antérieur de la Gli F4 et de la OF1. Hein. C'est celle, l'OF1, c'est celle qui a été retirée après Rémi Fraisse. La, la Gli F4, elle a été retirée là, il y a quelques années. Mmh. En fait, elles étaient déjà, leur remplaçante était déjà en étude. Et en prévision, en fait. Et après, ils disent que les explosifs sont pas les mêmes, c'est plus de la tonite, c'est l'autre explosif, là, j'ai un blanc, mais c'est plus ceci, c'est autre chose, mais l'effet, c'est quand même le même. Les gens, ils ont des fragments dans les jambes, ils ont des bouts de grenade dans les jambes, ils peuvent être mutilés profondément, et la désencerclement, c'est pareil, il y a des... Enfin, on la remet en cause, mais finalement, on la laisse. On a retiré le flashball aussi à un moment donné, pour lui préférer le LBD, en disant il est plus précis, en plus il est équipé d'un viseur, ça évitera les tirs
dans les yeux.
Ça évitera les tirs dans les yeux et ça évitera que la balle dévie. Mm. Bah, au lieu que ça soit une balle qui dévie, c'est un policier qui choisit intentionnellement de la mettre dans l'œil. Les exemples, il y en a plein de vidéos où ils disent on va vous blesser, tu vas voir ce qu'on va te faire, on va vous arracher un œil, ou on les voit faire le signe, on les a vus dans plein de moments faire le signe de se cacher un œil en passant devant toi. Ouais. Enfin, le message est clair, c'est on va t'arracher un œil.
Ouais.
Et l'intentionnalité, elle est très claire, elle est de meurtrir, de te faire mal, quoi, et de te blesser. Mmh. Et donc à partir du moment. En fait, c'est ça qu'on disait aussi dans plein de moments où on intervient là-dessus. Tu peux retirer toutes les armes. Si l'intentionnalité de la personne, c'est de faire mal, elle pourra te faire mal avec son poing, en fait. Elle peut t'arracher un œil à main nue. Si son intentionnalité, c'est de te faire mal, elle te fera mal d'une manière ou d'autre. Mais plus on lui met une arme puissante dans les mains, plus elle fera mal. Et ça, c'est sûr.
Et une arme
et
aussi.
C'est ça aussi. Mmh.
Enfin, j'ai l'impression, si tu veux, que ça fait que les flics sont moins ça les gêne moins de tirer, en fait.
Bah, en fait, ce qui les gêne pas, c'est surtout que systématiquement, ils bénéficient de non-lieu et qu'ils ont une impunité et qu'on les encourage à le faire, en fait. C'est ça qui, surtout, derrière, c'est ça le vrai moteur hein, qui leur dit qu'ils ont raison, en fait. Et ils s'émulent entre eux dans le fait aussi que leurs commandants leur disent « mettez leur chair » ou « il y a quand même une injonction à faire payer, quoi. Et par la création de brigades spéciales comme les Bravem où on dit lâchez-vous, faites leur peur, parce qu'en fait c'est quand même le moteur de tout ça, c'est la peur. On sait très bien pourquoi on met ça entre les mains, en fait, de policiers. Le but, c'est que s'il y a une personne qui perd un œil dans une foule, il y en a des dizaines et des dizaines qui vont plus à cet endroit-là, en fait, parce qu'ils ont peur de perdre un œil. Et c'est ça le moteur essentiel de ces armes-là. Il n'est pas là pour punir une personne, il est là pour en dissuader des dizaines d'autres. Et c'est ça le moteur essentiel de ces armes. Et c'est pour ça qu'on ne va pas punir le policier, parce que sinon on ne lui mettrait pas cette arme-là dans les mains. Le but, c'est qu'il fasse mal à un moment, c'est pas qu'il aille... S'il faisait que des bleus sur les cuisses, bah, y aurait plus de gens. Enfin, on est nombreux à avoir pris des trucs dans les cuisses, dans les machins, si c'était que ça. Mais à partir du moment où on sait qu'on peut perdre définitivement l'usage d'un œil ou de perdre des doigts ou des être mutilé gravement, c'est pas le même, ça n'exerce pas la même emprise psychologique sur les gens, quoi.
Moi, je préfère les éoliennes au kérosène. Si on prend de l'espace, c'est pour mieux déployer nos ailes. Avec ce son, je suis venu vous alerter. On est tous concernés et qu'il n'y a pas de planète B. Ça ne fait qu'une fourmi, mais ensemble on est une fourmilière. On peut remuer ciel et terre, réparer les erreurs d'hier. Chacun à notre échelle, on agit localement. Tout se joue maintenant, changer notre mode de vie, c'est plus qu'urgent. Moi aussi j'ai mes torts, mais je me mets à niveau. Bravo à ceux qui se soucient des arbres et des animaux. On va pas se mytho, 2 degrés de plus, c'est trop. On est tous concernés, des campagnes jusqu'à nos ghettos. C'est pour ces super-héros qui rentrent dans la légende. En manif, sur le Rhinté ou à Notre-Dame-des-Landes. C'est grâce à nos luttes que la vague verte va se répandre. Nos mers, nos terres, notre air, je t'énumère nos zones à défendre. Le temps file, mais nos envies non. Je te parle du fait de ce qui est important. Petit à petit, réparer nos erreurs d'avant. C'est nos tempéraments. Et le temps file, mais nos envies non. Je te parle du fait de ce qui est important. Petit à petit, réparer nos erreurs d'avant. C'est nos tempéraments.
Et on continue donc de vous diffuser l'interview que nous avons réalisée avec Joël autour de la question des violences d'État et des moyens qui leur sont octroyés dans les mobilisations sociales et environnementales.
Tu revenais sur cette intentionnalité en fait du corps répressif
Et est-ce que ça fonctionne pas aussi très bien avec cette histoire de discours aussi qui est développée ? C'est-à-dire cette idée d'un anti-républicanisme, d'éco-terroriste, de gens qui mettent en fait en danger presque une idéologie pour laquelle le policier... Mmh,
de factieux même, on a
voilà,
entendu.
Voilà, exactement, pour lequel le policier, lui, est engagé. Et donc, ça justifie aussi une intentionnalité de faire mal, c'est-à-dire on est face à des ennemis. À des ennemis idéologiques, à des ennemis qui mettent en cause en fait un ordre dont on doit être le garant. Et cet ordre ensuite, évidemment, lui, il est décidé dans
leur son
supérieur. Mais en t'entendant, on sent quand même quelque chose qui communique en fait entre tout ce discours médiatique, ces lois, cette justification presque morale. Et la facilité qu'on va avoir à appuyer sur la gâchette ou l'intentionnalité du policier à faire mal parce qu'il pense qu'il a raison.
Ah bah oui. Mm. Bah c'est la force de l'État policier. C'est plus le policier est renforcé dans son... Enfin, c'est... Il sert à ça. On lui dit qu'il sert à ça et on le renforce dans l'idée qu'il sert à ça. Et que c'est lui le rempart entre une barbarie que le politicien appelle à combattre aux 20h et la réalité de la rue. Le policier, lui, il se voit comme l'instrument de l'injonction politique qui a été faite la veille aux 20h.
On a vu apparaître aussi, un peu dans la lignée des braves M, les quad M, quelque part, qui visaient un peu au hasard avec des flashballs dans les champs.
Oui, bah oui, bah ça c'est... oui, ça participe à la technologisation aussi du maintien de l'ordre. Mmh, mmh. Progressivement, on a des drones au-dessus, on a des quads en bas, et on a des motos, on a tout un tas de trucs. C'est la technicisation du maintien de l'ordre. Mmh. Et du coup, ça, comment dire, on analyse de plus en plus les foules comme des espèces d'organes dont il faut... Enfin, c'est l'objectivisation de la foule aussi qui renforce encore la possibilité d'énormément de violences exercées sur cette foule. À partir du moment où on voit ça comme une masse mouvante dont il faut maîtriser le mouvement, à partir de ce moment-là, on n'a plus de place pour les individus, et ce qui explique qu'on peut avoir aussi massivement des blessés. Bah, t'as un terme qui est très révélateur. On appelle plus ça du maintien de l'ordre sur les salons sécuritaires. C'est la gestion démocratique des foules. C'est très très révélateur.
Ah, on dirait PSE, c'est plan de sauvegarde de l'emploi. Ouais.
Ah bah, c'est du management. C'est du management de la foule, quoi. Et en fait, on n'est plus là pour rétablir l'ordre, ce qui avait encore une certaine cohérence. Il se voit dans un truc, il y a l'ordre qui est troublé, on rétablit l'ordre. C'est la vieille école, quoi. Non, aujourd'hui, on gère démocratiquement les foules. Ça veut dire que la foule est indisciplinée, il faut la ramener à sa discipline.
Ouais, carrément.
À la raison.
Ok.
Elle perd raison, il faut la ramener à la raison. C'est ça le truc. Hein.
Juste pour s'arrêter un tout petit peu sur Sainte-Soline, résultat, est-ce que toi, quand tu as eu vent du niveau de répression, tu l'as interprété comme un cran qui était passé en plus dans une continuité, ou est-ce que tu l'as analysé comme une rupture dans tous ces mouvements répressifs dont on parle là déjà depuis un petit peu de temps?
Moi, j'ai l'impression que c'est une continuité, c'est un truc qui ne s'arrête plus. Et c'est une décomplexion surtout de l'État policier qui est de plus en plus grande. En fait, les ministres d'Intérieur sont dans une outrance de plus en plus grande et dans une décomplexion de plus en plus grande dans le fait d'assumer l'État policier, en fait. Avant, on avait une espèce de... Il tournait autour du pot. Aujourd'hui, Darmanin, il tourne plus autour du pot. Il dit juste très clairement qu'il est en train de faire un État policier, que c'est souhaitable et que c'est ça son programme. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'une majorité de la population a été suffisamment attisée avec les peurs et ce besoin sécuritaire qu'il peut se le permettre, en fait. Il y a une majorité de la population aujourd'hui qui résonne à partir de BFM TV, de CNews et du 20h, quoi.
Bien sûr, bah ouais, carrément. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la cellule Déméter et sur la volonté législative, une nouvelle fois, d'interdire donc la possibilité de construire des ZAD, donc des zones d'autodéfense, pour s'opposer à des projets environnementaux que nous considérons comme dangereux et écocides.
Alors, est-ce que tu peux commencer déjà par redire un tout petit peu c'est quoi Déméter ?
Ouais.
Bah, Déméter, c'était vraiment une cellule spéciale qui était d'abord concentrée sur la question des atteintes au monde agricole, hein, faut le dire vraiment. C'était, mais ça compte les pieds de chevaux qui sont coupés avec des couteaux, aussi bien que les destructions de matériel agricole, etc. Sauf que le glissement complet, c'est que cette cellule Déméter, elle a été quand même redirigée sur les enquêtes de zadistes, et notamment au niveau du carnet, sur la lutte contre le surf arc, etc. On a vraiment vu de façon très claire que Déméter commençait à faire du travail de police politique. Mmh. Ça a été pointé et étonnamment, finalement, ça aboutit à ce que la cellule Déméter soit démise de cette responsabilité-là. Ce qui ne veut pas dire que la cellule Déméter a disparu, ça veut juste dire qu'officiellement, elle ne fait plus ça.
Et tu as vu au carnet, ils ont gagné. Non, j'en profite pour
ouais,
le dire. Bah écoute, ah, oui, on ne peut pas se priver d'une petite victoire quand même.
Elle était cher payée aussi, parce qu'ils ont eu aussi une répression très lourde qui commençait assez proche de celle qu'on a vécue à Bure, sur le même schéma. Mm. Donc c'est une bonne nouvelle.
Oui, absolument. Et alors là, la cellule anti-ZAD.
C'est encore beaucoup plus flippant, parce qu'en fait, en vérité, quand on regarde bien ce qui a été dit dans la presse, à quoi ressemblerait cette cellule, c'est qu'elle n'est pas constituée de policiers, mais de juristes. Ah. Et donc, en fait, le but, c'est de mettre 5 juristes au ministère de l'Intérieur à bosser à plein temps, à prévenir l'installation de ZAD par des cadres légaux, c'est-à-dire de commencer à imaginer des circulaires, des lois qui pourraient aller à l'encontre de ça. Mais c'est plus profond que ça, parce qu'en fait, si on a bien prêté l'attention à ce que disait Darmanin, c'est en même temps, c'est qu'il veut aussi, aujourd'hui, criminaliser toute contestation de projet d'aménagement, en fait. Mmh. Et il dit, il faut que ça cesse, il y en a marre, on perd trop de temps à aménager le territoire à cause des recours juridiques.
C'est ça.
Et donc du coup, cette cellule, elle va avoir un double objectif, de dissuader les occupations et de prévoir les cadres légaux pour accélérer les aménagements, en fait. C'est ça que ça dit, en fait.
Ouais,
et donc,
ça.
C'est pas une cellule d'enquête, c'est pas une cellule d'investigation, c'est une cellule, et c'est encore, ça nous ramène pas mal d'années en arrière, parce que là, on revient, non pas à une police politique, mais à une pensée. C'est comment on prend le contre-pouvoir et la contestation, on l'inverse et on lui trouve une parade juridique, en fait. Et ça, c'est problématique. Hein. Ça, c'est un peu c'est totalement dans la lignée de contre-révolutionnaire, en fait. C'est la logique des contre-révolutionnaires. Il y a des gens qui vont réfléchir à comment empêcher la contestation sociale, quoi.
Ouais, d'ailleurs, on le voit, mais à tous les niveaux, hein, complètement à tous les niveaux, le fait qu'il y ait de moins en moins, que ce soit pour les sans-papiers, pour la petite la délinquance, enfin bon, pour tout, il y a une volonté de réduire les délais et les possibilités de recours juridique. Ça coûte cher, ça prend du temps, on est dans la même logique, mais c'est ce qui fait aussi la possibilité, enfin je veux dire, c'est la possibilité de critiquer, de remettre en question une décision de justice qui est là bafouée, quoi.
Ah ben en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que grâce à des occupations, on gagne le temps nécessaire pour faire aboutir les recours, souvent nous donnent raison. Mmh. Et en fait, c'est ça qui dérange, c'est que souvent on obtient gain de cause, mais uniquement parce qu'on a gagné du temps par une occupation, sinon ils auraient déjà tout rasé. Mmh. Et après, on leur dit « Ah, mais c'est pas bien, il fallait pas le faire, mais bon, c'est déjà fait. Mmh. » Ouais, il n'y a pas de retour arrière. C'est si vince, quoi.
Bah, c'est si vince, c'est les jardins Aubervilliers aussi,
Ah oui, les jardins d'Aubervilliers, Sivince, enfin, si t'as plus de trucs à défendre, t'as plus envie t'as beau avoir gagné le recours, tu replantes pas les arbres, tu fais pas revivre la nature qui était là.
Qui a été détruite.
Et donc là, aujourd'hui, le but, c'est d'évacuer les formes de contestation qui permettent aux recours d'aboutir. Donc les recours ont fait des lois d'accélération qui accélèrent quand même les choses et qui vont se passer de la nécessité d'attendre la fin des recours, l'épuisement des recours. Mais en parallèle, on empêche aussi que tout ce qui pourrait entraver les travaux et laisser le temps au recours juridique puisse exister, quoi. Donc en gros, on piétine allègrement le droit de l'environnement et de l'urbanisme, quoi. Mais ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que le droit de l'environnement, il faut quand même voir qu'il a été fortement nourri par le travail de militants des années 70 qui ont quand même qui se sont après investis sous Mitterrand et qui ont aussi rangé pas mal leurs armes au placard, comme je disais tout à l'heure, symboliquement. Mais il y a quand même beaucoup de militants qui se sont redirigés sur construire un droit de l'environnement contraignant, quoi, dans les trucs comme France Nature Environnement, etc. Et aujourd'hui, on va dans un truc inverse. Au moment où on devrait le plus se poser la question de l'environnement, c'est là où on veut le plus s'en passer, quoi. C'est quand même très, très, très symbolique. Ça veut tout dire. On a compris le message. C'est, on vous emmerde, on va détruire la planète. Et coûte que coûte, et puis allez vous faire voir.
Alors, le message, on vous emmerde, a priori, pareil. C'est un truc un peu général, il semblerait, ces derniers temps, hein, que ce soit sur la question de la planète ou sur la question de la vie des gens ou de leur quotidien, qu'ils mangent, qu'ils se soignent, que quoi que ce soit. Et le truc qui, là, est intéressant aussi, peut-être, à mettre en avant, c'est le fait qu'en même temps que nous, on est en train de décrire la manière dont il est presque impossible, finalement, de véritablement, en tout cas, comment un maximum d'outils sont mis en place pour que les luttes environnementales ne puissent pas aboutir et que leurs moyens soient coupés, en face, au niveau du gouvernement, il y a une appropriation aussi de cette question-là, au niveau du discours, au niveau des partis, au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, il y a comme un espèce de mouvement de miroir où, en même temps, à la télévision, à l'Assemblée nationale et au gouvernement, on nous parle de plus en plus de l'environnement, mais que, justement, il n'y a qu'un seul discours qui peut être juste sur l'environnement et la question environnementale, et ce sera celle du pouvoir. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est extrêmement important que toutes les autres personnes se taisent et qu'elles n'aient pas leur mot à dire.
Ah bah complètement, ouais.
Carrément.
Ah bah là, on est totalement dans cette logique-là aujourd'hui. Sur le nucléaire, c'est explicite. Ils attendent pas la fin du débat public pour annoncer qu'ils vont faire des réacteurs EPR. Bon bah, il sert à quoi le débat public alors? Ça veut dire on n'a plus envie de jouer à la démocratie. De toute façon, en fait, on est élu. Et la démocratie, c'est être élu pour faire notre programme. Et pendant 5 ans, vous serez juste là pour subir tout ce qu'on va décider parce que vous nous avez élus, quoi. Enfin, c'est ça aujourd'hui le résumé de leur vision démocratique. C'est on est élu sur un programme, on déroule notre programme et il n'y aura pas de réajustement en cours, quoi.
Et puis aussi parce que là, on est quand même dans une situation extrêmement particulière, à la fois en crise démocratique, sociale, économique, avec la guerre à nos portes. Et du coup, il y a aussi des projets qui veulent absolument faire passer sans qu'il y ait l'aval de la population. On parlait tout à l'heure du nucléaire, on parle de la question de l'eau, qui va être donnée dans les mains de l'agro-industrie, mais on parle aussi de plein d'autres, de l'énergie, de la nourriture, du pouvoir d'achat qui baisse, les gens qui peuvent plus se loger, manger. On est quand même dans une situation où l'enrichissement complètement démentiel de certains crée l'appauvrissement d'une frange de plus en plus importante de la population. Et ça, il faut le canaliser, il faut le gérer quand même. Et là, pour l'instant, l'État, pour le gérer, il ne lui reste plus que ses keufs.
Et l'allongement de la durée du
travail. Oui, et puis son armée.
Bien sûr. Il y a la répression, quoi.
Parce que le budget qui augmente de 3 milliards par an de l'armée jusqu'en 2050, là, c'est pas rien, hein. C'est là, on est en train de réarmer toute la société de l'intérieur, de l'extérieur. Non, on se prépare à des conflits majeurs et c'est très clair. Le message, il est très clair. C'est on n'a pas l'intention de pacifier le monde ou de trouver une solution pacifique au monde. On se prépare à un monde de conflictualité élevée. Et en ce moment, il y en a un exemple très simple. Dans l'est de la France et à Sète, là, il y a 2 mois, il y a un exercice, le plus grand exercice depuis la Seconde Guerre mondiale, l'exercice militaire le plus grand en France. Et pour se préparer à une guerre de haute intensité. Et du coup, il y a 12 000 militaires déployés dans le Grand Est pour faire un exercice grandeur nature d'invasion de la France, quoi. Le message, il est clair, en fait. Aujourd'hui, on considère que ce qui se passe en Ukraine n'est que l'avant-goût d'une dégénérescence géopolitique et géostratégique majeure, quoi. Et que le conflit est susceptible de gagner. Mais c'est assez dramatique qu'on n'est pas en train de se préparer à une résolution. Aujourd'hui, on fait plus d'efforts. On considère juste que l'ONU, c'était un beau rêve et que c'est bien gentil, que ça sert à rien. Enfin, on va plus du tout dans un sens d'une résolution pacifique des conflits. Ce qui était encore une illusion qu'on essayait de faire exister il y a 15 ans, 10 ans. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun effort dans ce sens-là. Et au niveau français, c'est pareil. On progressivement, il y a un défenseur des droits, il fait chier, on va peut-être le supprimer. Enfin, au fur et à mesure, on supprime les trucs qui gênent.
Ouais, quoi. La Ligue des droits de l'homme, etc. Enfin, ouais, des institutions pas très, très dérangeantes en plus. Mais bon, en tous les cas, même leur discours devient intolérable pour le pouvoir.
Je pense qu'on a des gens qui ont posé l'horizon du néolibéralisme et du capitalisme très loin devant eux et qui ont un plan à exécuter et ils n'ont pas trop de temps. Et donc, ils avancent comme des brutes. Ils avancent parce qu'ils savent qu'en fait, ils peuvent le faire. Ils matent les mouvements de révolte, ils font donner la force publique, ils avancent quoi.
Ils avancent, mais je voudrais pas qu'on soit dans un discours trop, d'impuissance, hein, même si en face de nous, on a des armes et nous, on a un peu de feu et puis quelques pierres. Mais ça n'empêche que, d'abord, il y a de la résistance, il y a une jeunesse qui a soif de vivre et de liberté et qui, là, s'exprime d'une manière extrêmement belle dans les manifestations. Il y a aussi, au niveau mondial, des contestations qui, malheureusement, ne se rejoignent pas, ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas. Et peut-être c'est vers ça que nous, de notre côté, il faudrait qu'on aille parce que ça va mal, mais à un niveau mondial, pas seulement au niveau européen ou asiatique ou africain. C'est vraiment un projet économique mondial qui est en train de tenter de nous mettre à genoux. Et en face, il y a beaucoup de résistance. Et là, peut-être, ça fera l'objet d'autres émissions, mais de savoir comment réagir et comment s'organiser face à ce déploiement d'armes et de répression qu'on décrit depuis le début de cette émission, quand même.
Ah moi, c'est très clair, hein, mon message n'est absolument pas celui du fatalisme, c'est de me dire qu'il y a une logique en face qui est celle qui est assurée et qui fonce, et face à ça, c'est l'organisation, l'entraide, c'est ça les fondements de notre réponse, en fait. Et oui, ça ne va pas être facile, c'est clair que ça ne va pas être facile, ça serait se bercer d'illusions, mais ça va être violent potentiellement à plein de moments. Mais ça clarifie aussi les lignes de ce que Macron dit tous les jours, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre sociale. Et nous, on a une nécessité aujourd'hui. On comprend que face à ça, on a une nécessité de s'organiser à très grande échelle dans la résistance face à cette logique-là, quoi. Mais c'est aussi, faut pas vivre avec la vue en arrière et se dire on va faire des grandes manifs et ça a changé les choses. Aussi se dire que faut mettre un cran au-dessus le niveau d'intensité de la contestation, parce qu'en face le niveau de pression est plus élevé aussi.
On est déjà en train de le vivre là. On est à la 12e manifestation contre la loi sur les retraites, avec un nombre impressionnant de manifestants, et ça dans des toutes petites villes en France qui n'avaient jamais vu ça. Et là, on est déjà en train de réfléchir, et je pense que ça peut être aussi une grosse remise en question pour pas mal de gens. Après, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? La loi est passée en pleine nuit, rien à foutre de la mobilisation, du fait que la majorité des gens sont contre cette loi, le fait que 12 milliards sur l'ensemble du budget, c'est que dalle, et que c'était pas le problème. Et là, il y a beaucoup de gens, je pense, là, en ce moment, qui sont en train de penser et réfléchir à « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ?» Mais c'est toute une contestation à inventer ou à réinventer. Donc voilà,
c'est à voir. Moi, je vais totalement dans ce sens-là. Hein. Sinon, j'aurais rangé mes armes au placard.
Ouais. Alors, juste,
ce n'est pas du tout le cas. Hein.
Bien sûr, carrément.
De toute façon, moi, je vois là tous les plans d'urbanisme, c'est du grand n'importe quoi. En fait, on sait très bien que dans les villes, si on veut gagner des degrés, il faut mettre des arbres dans les rues. C'est pas ce qu'on fait, quoi.
Là, on les coupe.
On les coupe. Donc, ouais. Et on te rajoute des fontaines. Les fontaines, elles seront interdites en été. Donc, ça sert à rien de rebâtir des fontaines. Là, je vois dans les plans d'urbanisme chez nous, ils nous remettent une fontaine. T'as envie de dire, non, mais vous déconnez ou...
Alors, justement, peut-être dans cette dynamique des petits face aux gros, un petit mot sur la FNSEA.
Là, on est en plus, c'est intéressant parce que le nouveau président de la FNSEA, c'est le président du groupe Avril, qui est censé être un groupe responsable sur des produits éthiques de cosmétiques. Et donc, du coup, on arrive vraiment à un niveau où c'est un gros industriel machin, mais qui dit que derrière, il fait des produits éthiques. Donc là, on est en plein dans l'espèce de double discours qu'on parlait avant au niveau politique. Maintenant, on va avoir en plus quelqu'un qui représente la FNSEA qui pourra dire tous les jours, regardez, mes produits sont éthiques. Donc moi, je suis quand même du bon côté. Qui quand même a des milliers d'hectares de champs et des fermes industrielles et qui produit tout ça dans des usines, quoi. Donc, ouais, aujourd'hui, on est dans une course en avant complètement folle. Où il suffit de greenwasher le discours pour dire qu'on est écolo, mais
ouais,
et du carrément. Coup, c'est tout l'inverse qui est fait.
Carrément.
Et la FNSEA joue un rôle majeur là-dedans. C'est-à-dire que la FNSEA, c'est comme le syndicat de police. C'est le syndicat qui protège les mauvaises agissements. Quoi.
Les mauvaises pratiques, ouais.
Les mauvaises pratiques, c'est exactement ça. C'est le même rouage, quoi. Aujourd'hui, il y a pas de place pour une réflexion sur d'autres pratiques. La FNSEA ne crée pas la place pour réfléchir sur les pratiques. À aucun moment, elle va dans ce sens-là. C'est pas du tout ce qu'elle fait. Et donc, à partir de là, elle est le syndicat des propriétaires terriens puissants. Et ça aussi, c'est vieux comme le monde. Les grands propriétaires terriens ont toujours été les oppresseurs des petits, quoi.
Carrément.
Et c'est pour ça que les grandes luttes révolutionnaires commencent généralement par une lutte sur la question des terres. Parce que c'est ça la réalité. Les grands propriétaires terriens bloquent une grande partie des surfaces de terre et déterminent comment l'alimentation a lieu, comment la nature elle est disciplinée et comment se passent les écosystèmes entre ville et campagne. Tant qu'on remet pas en cause ce modèle-là, de toute façon, on va se retrouver acculé par la dégradation des conditions de vie, quoi.
Ce qu'on peut noter là, en attendant, c'est que au sein de la contestation sociale, en attendant cette question d'État policier et le lien avec Sainte-Soline et les luttes environnementales, il a été fait, il continue d'être fait. Qu'il y a une détermination, une volonté de faire ça, et qu'au même titre qu'on le disait tout à l'heure, peut-être que ce qui est intéressant aussi, c'est que actuellement, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites se sent concernée aussi par la question
de la répression et des mégabassines et de la flotte et de l'énergie. On sent que tout ça est en train de se lier, quoi,
et que c'est absolument nécessaire, quoi, pour une résistance efficace et récupérer notre puissance.
C'est surtout on peut décider de rester à 62 ans, mais si on vit par des températures effrayantes d'ici là, on n'a pas gagné grand-chose. Du coup, c'est aussi se penser dans une écologie sociale au sens large. Du coup, c'est vraiment ça, lutter global. En fait, c'est ce qu'on a perdu depuis l'altermondialisme. On a perdu de vue le lutter global.
Carrément. Et il est en train de revenir.
Segmenté, sectoriel, et le mot de la fin, c'est de dire il faut lutter global à nouveau, et de façon, comme tu disais, l'internationalisme, il est à remonter, en fait. Ouais. Il faut le rebâtir, et il ne doit pas appartenir à des ONG internationales qui font du plaidoyer pour que les lois qui ne vont pas être respectées soient mises en place.
Ils ne font pas leur taf.
Il faut reprendre l'internationalisme et lui redonner sa couleur politique, quoi.
Eh bien, on va finir comme ça. Voilà, ça va, ouais. C'est super.
Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major.
Bref, rien de bien nouveau sous le soleil, les mêmes vieilles chiennes sur leurs vieilles piles d'oseille. Ces bonnes vieilles lois pour nos bons vieux trois rats, un extra cette fois, un trophée ces derniers mois. Une portée de gorée s'est coincée entre les mailles de mon filet. J'y ai même trouvé un code pénal à tranche dorée, expédié par voie d'huissier, avec tous les bravos du 9 place Beauvau. Le pompon, la cerise, je crois à ma plus grosse prise, ça me changera des frises et de la bouillie pour chat, concert aux grandes fêtes foraines républicaines. Ça m'inspire l'amour et la joie qui fait défaut à mes rengaines bien trop chargées de haine.
Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major.
Toujours dans la...
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Au début, il n'y avait rien. Quand soudain...
Radio Primitive.